Chemin de vie.
Bienvenue de la part de toute l'équipe Chemin de vie. Nous avons le plaisir de vous accueillir pendant 30 minutes sur votre radio locale du lundi au vendredi à cette même heure ou sur le net. Chemin de vie vous propose de parcourir la Bible d'un bout à l'autre. Et c'est Jacques Yosti qui nous en développe une facette chaque jour. Au micro, Jean.
Ainsi que Heidi. Et à la technique, Daniel. De quoi est-il question aujourd'hui, Jean ?
Notre étude biblique du livre de l'Ecclésiaste arrive bientôt à son terme. Le texte d'aujourd'hui pourrait s'intituler « L'homme n'est pas maître de son destin ». Une réflexion qui mérite notre attention.
Certainement, Jean. Mais auparavant, marquons une pause musicale avant d'entendre Jacques Yosti, notre infatigable chroniqueur. Le groupe No Shame nous interprète « J'aimerais, ô mon Dieu ».
Faut-il pour réussir dans la vie? Eh bien, il est nécessaire de posséder d'une part cette faculté intuitive qu'en bon français on nomme la jugeote. D'autre part, une bonne éducation adaptée au marché du travail et surtout, il faut que la fortune vous sourie. Un certain Eugène Labiche a dit « Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux, ceux à qui tout arrive. » Le prédicateur a déjà dit que le juste et le sage sont à la merci des mêmes circonstances de la vie que les autres. Je continue à lire dans le chapitre 9 de l'Ecclésiaste. « J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. » Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Verset 11. On a beau avoir tous les atouts dans son jeu afin d'atteindre ses objectifs, nul n'est à l'abri d'un événement fâcheux qui viendra tout mettre par terre. Le prédicateur a observé que l'avenir est incertain, et chacun de nous, y compris l'homme sage, intelligent et compétent, peut voir ses projets capoter. Que celui qui est vaillant et habile ne s'imagine pas qu'en se donnant à fond dans ce qu'il fait, peut être certain de réussir. Ne soyons pas présomptueux parce que le futur appartient à Dieu seul. Je lis deux passages. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent », savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Fin de citation. Je continue le texte. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. Verset 12. Les êtres humains sont tributaires des temps et des circonstances. Personne ne peut savoir quand une tuile lui tombera sur la tête ou quand la dame à la faux viendra frapper à sa porte pour moissonner son âme. Selon la perspective sous le soleil, le fatalisme du prédicateur est cohérent avec la réalité. Si je suis en avion et qu'un terroriste le fasse sauter, je suis comme le poisson ou l'oiseau pris au filet. Je suis cuit. Heureusement, le point de vue chrétien est différent. Je continue le texte. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui m'a paru importante. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea, et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre mais sage qui sauva la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Je dis, moi, que la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et le plus souvent ses paroles ne sont pas écoutées. Versets 13 à 16. Cet agresseur a dressé des embûches monumentales afin d'empêcher la population de la ville de s'échapper et les vivres d'entrer. Et puis voilà que quelqu'un parmi les assiégés fait preuve de beaucoup de jugeote. Et grâce à son coup de génie, les attaquants sont vaincus. Mais curieusement, ce héros ne tire aucun profit de son exploit, ni récompense monétaire, ni reconnaissance de la part de ses contemporains. Quelqu'un de réfléchi agit dans les coulisses, hors de la portée des projecteurs, afin d'être efficace. S'il est de condition humble, dès que les choses sont à nouveau normales, on ne fera plus aucun cas de lui. L'ingratitude est une caractéristique éminemment humaine. Lorsque le Christ vivait parmi nous, les gens de son époque, tant juifs que païens, l'ont méprisé et rejeté parce qu'il était un simple homme du peuple, sans éclat et pauvre. Il a dit lui-même, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Fin de citation. Et pourtant, Jésus était la sagesse personnifiée. Je finis le chapitre 9. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. Verset 17. Chaque fois qu'un groupe se rassemble pour réaliser quelque chose, il y a toujours une grande gueule qui aboie et qui fait des émules. Ça va bien pour rire un bon coup, mais quand on doit vraiment être efficace, les gens se tournent vers quelqu'un de posé parce que les bonnes idées viennent de ceux qui réfléchissent avant de parler. Je continue. La sagesse vaut mieux que les armes d'approche. Verset 18. La sagesse est un mélange d'intuition, d'intelligence et de réflexion. Ce sont les gens dotés de ces qualités qui ont fait avancer les sciences et techniques. C'est grâce à leurs innovations qu'aujourd'hui on traverse l'Atlantique en avion aussi facilement que d'antan on allait de Paris à Marseille en train. Comment ces immenses autocars géants font-ils donc pour voler? Ils s'appuient sur des principes qui au fil des années ont été découverts et mis en application par une longue suite d'hommes avisés depuis Léonard de Vinci, les frères Montgolfier, à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux frères Wright qui construisirent le premier avion à moteur et réalisèrent le premier vol en 1903. Après ses premiers succès, les choses sont allées très vite et les exploits se sont multipliés. En 1909, Louis Blériot franchit la Manche et après-guerre a lieu la première traversée transatlantique. Il est suivi par Jean Mermoz qui fait régulièrement les lignes Dakar, Rio de Janeiro, Santiago. Je continue le texte de l'Ecclésiaste. La sagesse vaut mieux que les armes d'approche, mais il suffit d'un seul pécheur pour gâcher beaucoup de biens. Toujours le verset 18. Parallèlement à leur rôle utilitaire, toutes les inventions humaines servent aussi et surtout à tuer. C'est ainsi que les avions ont été transformés en engins de guerre, puis en bombes volantes, d'abord par les kamikazes japonais, puis de nos jours par des pirates de l'air comme lors des attentats du 11 septembre 2001, où deux avions de ligne détruisirent les deux tours du World Trade Center de New York. La mise au point d'une arme dépend souvent d'une seule personne et il suffit d'un despote pour anéantir des populations entières. L'histoire en est témoin. Je pourrais facilement énumérer une vingtaine de tyrans sanguinaires qui sont devenus célèbres à cause des massacres qu'ils ont dirigés, autant par soif de conquête que pour le plaisir. Mais celui qui a eu le plus d'influence sur la race humaine et qui lui a causé le plus de dégâts est Adam, le premier homme, bien que, si on veut être précis, c'est Ève qui fut la première à désobéir à Dieu et par là à plonger l'humanité dans le péché, la rendant esclave de Satan et du mal. Dans les Écritures aussi, on trouve beaucoup de gens dont la vie et les actions sont décrites parce qu'elles furent à l'origine de grandes catastrophes, surtout pour la nation d'Israël. Qui que nous soyons, et quelle que soit notre situation, chacun de nous, qu'il le veuille ou pas, exerce une influence, bonne ou mauvaise, sur son entourage, parce qu'il est tout simplement impossible de ne pas communiquer. Nous sommes donc tous des prédicateurs qui proclamons des messages en parole et en action. Je dois donc faire très attention à mon comportement si je suis en compagnie d'enfants, parce que ce sont des imitateurs nés. Ils absorbent tout ce qu'ils entendent et voient à longueur de journée. C'est pour cela qu'ils ressemblent tant à leurs parents. Un soir d'hiver, alors qu'il avait neigé, un viticulteur est allé dans sa grange, comme il faisait régulièrement, pour boire un verre de gnôl. Seulement cette fois-ci, son petit garçon de 4 ans l'a suivi en marchant dans ses pas. Entendant un crissement derrière lui, le père se retourne et découvre, tout surpris, son fils qui le regarde. Alors il lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais donc dehors ?»« Eh bien, j'ai voulu suivre tes traces dans la neige, » lui répond le petit bonhomme. C'était innocent, mais son père a soudainement réalisé que tôt ou tard son garçon deviendrait comme lui, alors il décida d'arrêter son manège sur le champ. Quand j'étais enfant, il me semblait que tous les hommes de notre famille étaient fumeurs, ainsi que les ados du village que nous appelions les grands parce qu'ils allaient au collège alors que nous étions encore en primaire. Évidemment, avec les copains, nous trouvions ça super cool et voulions faire comme eux. Alors, comme les jeudis, nous n'avions pas école, le matin on allait au catéchisme et l'après-midi dans un endroit tranquille avec un paquet de cigarettes. Nous avons simplement mis en pratique le message qui nous était communiqué par nos aînés, comme quoi ce sont les gens importants qui fument. C'est comme ça que dans notre bande de copains, nous avons tous commencé très jeunes à pratiquer ce vice. Pensez à toutes les personnes que vous rencontrez en un jour, une semaine ou une année, dans votre rue, au magasin, dans le voisinage, à l'église, sur votre lieu de travail, pendant vos loisirs. Vous exercez une influence, grande ou petite, bonne ou mauvaise, sur tous ces gens. Elle est peut-être inconsciente, mais bien réelle quand même. À moins de vivre seul en ermite dans la montagne, nous sommes sans cesse observés comme des poissons dans un aquarium. Un seul pêcheur peut gâcher beaucoup de biens. Songez-y. Le chapitre 10 continue le 9e, et d'ailleurs le premier verset est une application du précédent. Je commence à lire. Une mouche morte gâte et fait fermenter l'huile parfumée. un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une bonne réputation. Verset 1. Cet adage rappelle qu'il suffit d'un faux pas, d'un seul écart ou d'une maladresse pour ruiner bien des efforts et anéantir ce que la sagesse avait permis de construire. La vie est pleine d'exemples qui illustrent cette vérité. Une amourette peut ruiner un mariage et une escapade sexuelle entraîner une maladie et même la mort ou tout au moins bien des remords. C'est tellement facile. Où que vous rouliez en voiture, vous êtes sûr de rencontrer une roulotte bien en vue, garée sur un chemin de terre où vous attend une jolie fille avec tout l'attirail de la parfaite séductrice. Un jeune homme qui avait reçu une éducation chrétienne a dû quitter sa région natale pour son premier travail. Comme il se sentait seul, il a commencé à sortir avec des gens qui n'avaient pas les mêmes valeurs que lui. Un soir, il s'est laissé convaincre et est allé avec eux en ville pour voir des filles. C'était la première fois, mais il a quand même attrapé une MST, qui de plus fut mal soignée. Il n'a plus jamais fauté de cette manière et s'est mis à fréquenter une jeune fille sérieuse et à ses dires des plus charmantes, en vue de se marier. Malheureusement, il a été obligé de rompre avec elle à cause de sa maladie qui ne guérissait pas. Une seule mouche morte gâte l'huile parfumée. Après des années d'efforts, certains parviennent à des postes de très grande responsabilité et acquièrent un rang plus qu'honorable dans la société. Et puis un beau jour, on découvre qu'ils ont commis une action répréhensible et d'un seul coup, ils dégringolent de leur piédestal. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, moi, par exemple, je suis quelqu'un de bien. Si, si, je vous l'assure. Eh bien, plus d'une fois, au lieu de me la fermer, je me suis permis un écart de parole qui m'a valu des ennuis dont je me serais bien passé. Je continue le texte. L'esprit du sage le dirige à sa droite, tandis que celui de l'insensé le pousse à sa gauche. Quand ce dernier marche dans un chemin, le bon sens lui fait défaut et tous disent « c'est un insensé ». Mais lui reprochera aux autres d'être fous. Versets 2 à 3. Dans l'Antiquité, la droite était considérée comme le côté de la protection, de la force et de l'abondance. Quand un homme sage s'exprime, c'est après réflexion et il sait de quoi il parle. Quand il travaille, il met du cœur à l'ouvrage et connaîtra le succès. L'insensé, lui, n'a pas besoin de porter une pancarte qui dit « Je suis stupide ». Dès qu'il ouvre la bouche, il l'a dit. Dans une réunion publique, ces deux sortes d'individus se révèlent très vite. L'un fait une remarque sensée et l'autre dit une ineptie qui fait que tous les gens baissent la tête tellement ils ont honte pour lui. Je continue. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste car le calme évite de graves fautes. Verset 4. Le calme et la maîtrise de soi sont l'apanage des sages et un fruit de l'esprit selon le Nouveau Testament. Si le patron est de mauvaise humeur, le mieux à faire est de se tenir tranquille et d'attendre que l'orage passe. Celui qui sait se contrôler évite bien des déboires. Je continue. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une erreur de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu aux postes les plus élevés, alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Versets 5 à 6. Dans l'Antiquité, les gens riches et les princes étaient éduqués en vue de l'exercice du pouvoir et allaient à cheval à la façon des personnages de haut rang. Par contraste, les esclaves qui n'avaient reçu aucune éducation n'étaient pas capables d'assurer un poste à responsabilité et leur état leur imposait d'aller à pied. Travailler dur, étudier sérieusement, économiser et tout le reste ne se traduit pas automatiquement en succès. En d'autres mots, la sagesse peut facilement être abrogée par toutes sortes de circonstances. Le prédicateur déplore donc que la position et la fonction que quelqu'un occupe ne reflètent pas forcément ses talents, ses capacités ou sa moralité. Certains ont des hautes fonctions alors qu'ils sont tout à fait incapables et en sont indignes. Il fut un temps où tous ceux qui faisaient partie de la classe gouvernante, localement ou à l'échelle nationale, menaient une vie exemplaire et avaient très bonne réputation. Mais aujourd'hui, n'importe quel malfrat impudique peut avoir un portefeuille ministériel s'il a fait HEC ou une autre grande école. Les bonnes gens ne sont plus choqués par quoi que ce soit que des hommes ayant une charge importante mènent une vie en bâton de chaise, les laisse indifférents. Pourtant, le modèle affligeant qu'il donne aux jeunes fera des émules, c'est sûr. Il ne faut donc pas s'étonner des mœurs dissolues des ados et leur absence de civisme et de moralité. La faute incombe à ceux qui sont aux commandes de l'État économique et politique. Ce que jadis on appelait péché et folie a été élevé au rang de dignité. De nos jours, on ne se marie pas, on se prête. Et à partir du troisième rendez-vous, au plus tard, on couche. L'homosexualité a reçu ses lettres de noblesse. La porno est devenue un art. Les prostituées offrent un service comme un autre. Et les notions de chasteté, fidélité, honnêteté, loyauté, intégrité, modestie et autres vertus sont considérées vieux jeu. La majorité des Français sont indifférents au fait que les règles qui régissent notre tradition judéo-chrétienne s'effilochent un peu plus chaque jour. Mais ce n'est pas sans conséquence, non seulement au niveau moral, mais aussi social. Notre culture occidentale décadente est un terrain de prédilection pour certaines idéologies et mouvements religieux. De plus en plus de jeunes hommes deviennent musulmans parce que l'islam offre un cadre et un programme moral détaillé qui couvre tout des relations à la protection de l'environnement. C'est aussi la religion des opprimés, un refuge pour les laisser pour compte et un moyen de se rebeller contre un système débridé qui n'offre plus aucun garde-fou ni idéal et où tout est à la vas-y comme je te pousse. Je continue le texte. Qui creuse un trou risque d'y tomber et qui abatte un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser avec et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Versets 8 à 10. Toute activité, quelle qu'elle soit, comporte des risques auxquels il faut penser et contre lesquels on doit prendre des précautions. Je me suis déjà fait mal avec un outil par pure négligence, en me comportant comme si j'étais indestructible. Celui qui n'agit pas avec sagesse en pâtira. J'en sais quelque chose. Une fois, mon ciseau à bois a ripé et s'est planté dans la main, ce qui m'a obligé d'aller aux urgences. Tous les hivers, je fais mon bois. Je récupère tout ce que je trouve, je le coupe en tronçons, puis je le fends. Tout ce processus exige la plus grande prudence et aussi de la prévoyance. Avant de débiter les bûches, je m'assure que la scie et la hache sont bien aiguisées. Cette précaution rend le travail moins pénible et les outils plus faciles à contrôler, donc moins dangereux. La loi cause-effet ne s'applique pas seulement dans les sciences et techniques, mais partout dans la vie et en particulier dans les domaines moral et spirituel. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. » Fin de citation. La plupart des gens pensent pouvoir faire comme bon leur semble, sans conséquence, et c'est vrai que souvent, à court terme, il n'y en a pas. Mais Dieu agit dans le temps, et si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'autre qu'il réglera ses comptes avec chacun de nous.
Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon maître entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier.
Dan Luitienne vient de nous interpréter ce titre « Mon âme a soif de toi ». Avant de clore cette chronique, nous vous demandons encore quelques minutes d'attention. Pour recevoir gratuitement et sans engagement une copie de ce texte ou une Bible, voici nos coordonnées téléphoniques. 0820 200 628, c'est un numéro Indigo. 0820 200 628. Voici notre site internet chemindevie.info. Avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Ne manquez pas la suite demain. Au revoir.
À demain.